Go. Le show du matin.
Là.
Weekend.
Avec Carbo.
Radio X.
Normalement, on devrait parler avec Renaud, mais je comprends pas pourquoi on n'est pas capable de se connecter.
Ah, ben, je pense qu'il devrait arriver dans les prochaines secondes. Là.
C'est la qualité hein, du direct, en direct de Grande Allée. On va se faire une petite météo, tiens, pourquoi pas. Aujourd'hui, ça va se dégager vers midi. Vois-tu, déjà, c'est gris un peu, mais ça va se passer. Mais une très, très belle journée. 23 degrés, humidex 26. C'est pas croyable, hein? 22 degrés demain, soleil. On parle la même affaire pour le reste de la semaine. Un petit drop des températures, juste correct, là, des nuits à 3 degrés. Oh! Et un retour après ça, un peu plus appréciable. 15, 19 et 22 degrés pour samedi prochain avec du soleil. Elle ne veut pas s'en aller l'été. Elle ne veut pas s'en aller. Elle a dit non. Est-ce qu'on a réussi de se connecter avec notre beau
Absolument,
Renaud?
Absolument, il est là.
Salut Renaud!
Bon matin.
Bon, comment ça va?
Ça va, vous autres, gang?
Ben oui, ben oui.
Une tune de musique à matin à 7h10, c'est ouais. Votre enfant.
Ben façon. Pourquoi pas, tu sais, c'est du bonheur.
Ben oui, absolument.
C'est du bonheur. Renaud, politique municipale, il y a plein de choses que je sais pas, que je connais pas. Il y a plein de termes que je sais pas, que je connais pas. Ça serait le fun qu'on embarque là-dedans dans les termes pour un peu plus connaître tout ce qui se passe là, au niveau des séances de conseil.
Oui, absolument. Je voulais commencer ça en dimanche matin, un peu gris. Là, on a parlé beaucoup du monde municipal. J'en parle avec vos collègues aussi, avec JC, à chaque mercredi, avec vous autres maintenant, toutes les fins de semaine. Puis plusieurs citoyens voient des documents de ville, de municipalité. Il y a des termes un peu simplistes, mais qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Puis je me suis dit, on va faire un petit lexique avant de retourner là, sur l'histoire de la fameuse dette de la Ville de Québec et des policiers. Premièrement, une séance ordinaire. Souvent, on entend une séance ordinaire du conseil. C'est quoi une séance ordinaire? En réalité, là, dans le monde municipal, que ce soit au municipal, donc 5000 habitants et moins, ou le code cité et ville, on se doit de tenir au moins une séance de conseil, excusez-moi, à tous les mois.
Donc, okay.
Une séance de conseil par mois.
Une.
Ça, il n'y a pas de débat. C'est une obligation. Donc, d'emblée, l'année d'avant, donc souvent en novembre ou en décembre, chaque conseil municipal doit adopter une résolution qui présente le calendrier des séances du conseil pour l'année suivante. Donc, ça va être les 12 séances qu'il va y avoir l'an prochain. Voici les dates. La grande majorité des municipalités, on fonctionne souvent avec le premier mardi du mois. Donc, tous les premiers mardis du mois, il y aura une séance du conseil. Voici le calendrier. Par exemple, le 7 janvier, le 13 février, ainsi de suite. Donc, à tous les premiers mardis, ça, c'est une séance ordinaire. Mais ce qu'on entend souvent et où ce que les citoyens se questionnent, c'est qu'il y a souvent le terme « séance extraordinaire ». C'est quoi la différence?
Ouais.
Une séance extraordinaire, là, c'est quand ce n'est pas une séance qui est dans ces dates-là préétablies à l'avance. Donc, les 12 séances ordinaires, ça sont cannées. Ils existent déjà un an avant. Une séance extraordinaire, c'est quand un conseil décide, soit un maire, un directeur général, ou dans le code municipal, plus de deux conseillers demandent une séance extraordinaire. Donc, on veut une rencontre au PC, on veut s'asseoir. Celle-là déroge du calendrier, mais dans cette séance extraordinaire-là, on ne peut que jaser des points qui sont à l'ordre du jour. Puis c'est ça la nuance importante.
OK.
Dans une séance ordinaire, les points à l'ordre du jour, on peut en discuter et les citoyens peuvent se présenter en période de questions et parler de ce qu'ils veulent. Mais dans une séance extraordinaire, on ne peut que parler des points à l'ordre du jour et les citoyens ne peuvent pas questionner leurs conseillers sur autre chose. C'est impossible.
Mais c'est bizarre pareil.
Ben, c'est très restrictif. Puis c'est pour ça qu'on voit beaucoup, beaucoup de séances extraordinaires se présenter parce qu'on peut les mettre un peu n'importe quand. Une séance ordinaire, comme je vous dis, majoritairement, c'est le premier mardi du mois. Mais là, on voit des séances extraordinaires. Oh, un vendredi à 13h. Un samedi à 10h30.
Vite fait, bien fait, vite, vite, dépêche-toi.
À des places ou à des moments où ce que les citoyens sont moins accessibles et ça limite la période de questions à ce sujet unique ou à ces sujets uniques-là qui sont présents dans la séance extraordinaire. Donc, c'est vrai de dire, malheureusement, que les séances extraordinaires, plus souvent qu'autrement, servent à passer des règlements, des modifications de règlements ou des dépenses hautement questionnable et c'est un peu une fâcheuse situation qui se présente trop souvent à mon goût dans le monde municipal.
C'est incroyable. Une résolution, c'est quoi ça, une résolution?
Une résolution, là, toute municipalité, qu'elle soit ville ou bénerie, on parle par résolution. Donc, une résolution, c'est ce qui attache la municipalité, c'est ce qui attache le conseil municipal à un contrat ou à un changement d'envergure. Donc, toute municipalité ne peut pas octroyer un contrat majeur s'il n'a pas de résolution. Et la résolution, qu'est-ce qu'elle dit? La résolution, c'est que c'est les conseillers et le maire qui parlent. Donc, ce n'est pas le directeur général, ce n'est pas la directrice générale adjointe, ce n'est pas les fonctionnaires, c'est le conseil qui met son étampe, sa signature pour dire « Voici, nous, à Paris-Ville, on octroie le contrat de 2,31 millions pour la réfection des conduites d'aqueduc et d'égout. On passe par résolution, on vote. Le conseil tranche oui, tranche non et on va de l'avant. Et ensuite, les fonctionnaires font la job pourquoi ils sont payés.
Okay.
C'est le conseil qui met leur sceau, c'est le directeur général qui signe et le libellé va dans ce sens-là. Donc, toute municipalité au Québec parle par résolution. Si vous n'avez pas de résolution, si vos conseillers ou vos élus vous disent « Oui, oui, monsieur Labrec » ou « Oui, oui, monsieur Louis » ou quoi que ce soit dans notre village, là, on va faire ce que vous demandez, il n'y a pas de problème, on va mettre des nouveaux trottoirs, par exemple. Mais il n'y a aucune résolution qui attache les propos de l'élu, ça vaut rien. Ça vaut rien.
OK. Si on parle de sommaire décisionnel, je pensais que c'était la même affaire qu'une résolution.
Exactement, c'est le même principe. Par contre, un sommaire décisionnel va aller plus en détail. Donc, on a la résolution qui est simpliste, souvent avec quelques phrases qui sont considérant que le conseil de Paris-Ville a adopté le contrat, considérant le règlement d'emprunt, puis on s'en tient à ça. Un sommaire décisionnel va aller beaucoup plus en détail, va mentionner à quoi ça sert le contrat, offrir l'exemple de signature ou de changement réglementaire et l'historique du pourquoi ils sont arrivés là. Donc, le sommaire décisionnel est beaucoup plus complet. C'est une excellente approche de la Ville. La Ville de Québec le fait très bien dans leur sommaire décisionnel. Ils sont très bien détaillés. Par contre, peu de journalistes vont les lire. Hein. Ça, c'est autre chose.
Mais, ouais.
Mais c'est là où on a plus de détails qu'une résolution. Donc, effectivement, Carbeau, c'est la même chose. Par contre, un peu plus approfondi.
OK. Quorum, moi, je pensais que c'était dans le Camestra. Mais non, ça a l'air que c'est
Non. Avec vos collègues ou votre collègue, là, le vendredi, elle pourrait en parler. Je pense que c'est le vendredi, son show.
Ouais, ça s'explose.
Ouais, exact. Mais non, c'est pas le quorum. Le quorum, là, c'est le nombre minimal d'élus qui peuvent être présents à une séance du conseil pour que la séance du conseil, elle soit légale.
Oh.
Dans le code municipal, dans les petites municipalités, c'est 7 élus. Donc 7, 6 conseillers plus un maire. Le quorum est établi à 4. Donc au moment qu'il y a au moins 4 conseillers présents à la séance du conseil, la séance du conseil peut se tenir et elle sera légale. Même s'il y a 3 absents, même si les 3 autres ne votent pas, s'ils sont seulement 4 à la séance, maire inclus, ils peuvent prendre l'ensemble des décisions de la Ville au nom du conseil et ce sera légal. Donc, c'est le nombre minimal.
Mais
Par contre, au moment qu'ils sont 3 à être présents, la séance ne peut pas avoir lieu.
Quelles seraient les raisons valables de l'absence d'un conseiller à un conseil municipal, genre maladie ou sont même pas obligés de se pointer?
C'est là où on marche sur une fine ligne. Là. Le code municipal, la CMQ, surtout les règlements là, d'éthique là, de chaque municipalité qu'il possède, là, la phrase est toujours la même. C'est les firmes d'avocats qui la donnent. Là. Tout élu doit faire tout en son pouvoir pour assister aux séances du conseil.
OK. Ouais.
Ça, c'est inscrit noir sur blanc. J'espère. Il n'y a aucun débat. Tout élu doit faire tout en son pouvoir pour assister à une séance du conseil. Par contre, oui, quand il y a de la divergence entre les opinions, qu'il y a un peu de chamoyage parce que les gens ont perdu la notion de débat en 2025. Donc, plutôt que de se présenter et présenter une opinion contre, c'est une joute politique et ces gens-là souvent choisissent de ne pas se présenter pour ne pas apparaître, sur les procès-verbaux comme de quoi qu'ils ont voté contre. Et ils préfèrent avoir un quorum et leur absence qui fait en sorte que personne ne va savoir leur position, même s'ils étaient contre.
Okay.
Donc, ça, c'est un geste très régulier. Lorsque ces gens-là savent qu'ils vont voter contre, mais que le quorum va toujours être respecté, et là, dans ce cas-là, on se ramasse avec des votes, par exemple, 4 contre 0, mais les 3 autres étaient contre. Donc, il n'y a aucune bonne raison, aucune. À part une maladie, un voyage. Et encore là, c'est très boiteux, parce que depuis le projet de loi 57, qui a été adopté il y a, un an et des poussières, la loi, le projet de loi 57, qui visait à protéger les élus, permet dorénavant à des élus d'assister au séances du conseil en vidéoconférence. Donc, ils pourraient se connecter à distance et y assister.
OK. Les avis publics, des avis de motion, des avis d'adoption.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est ça?
Oui, effectivement. Les avis publics, là, c'est en fait, c'est les quatre documents principaux là, qu'une municipalité ou une ville utilise. Donc, l'avis public, on avait parlé, je pense, avec toi, Carbo, cet été, quand j'étais en remplacement. L'avis public, là, c'est les documents que les municipalités et les villes là, publient sur leur site Internet, je vais dire ça comme ça, ou dans les petites municipalités qui fonctionnent encore à l'ancienne, qu'on va mettre dans les fenêtres des centres communautaires, dans les fenêtres du bureau municipal, ainsi de suite, pour donner la chance à la population de connaître ce qui s'en vient ou une future rencontre va se tenir. Mais entre vous et moi, là, personne ne va au bureau municipal dans la fenêtre voir qu'est-ce qui est publié.
Non, ça n'a jamais
arrivé. Personne va au bureau de poste voir c'est quoi. Ça n'arrive pas, là. Mais ça, c'est la méthode à faire. Par contre, c'est très archaïque et anciennement, comme je disais cet été, c'est un peu l'ancienne personne dans les années, je vais dire, 1700, où la personne marchait dans les rues et hochait une cloche. Oyez, oyez, ce soir se tiendra une rencontre. Mais c'est ça, un avis public.
Okay.
C'est exactement ça. C'est la feuille de papier qui traîne à quelque part dans la municipalité, sur le site Internet, au centre communautaire, au bureau municipal, à Poste Canada, puis qui dit « demain, il va y avoir une rencontre sur le changement de règlement de l'Académie Saint-Louis, par exemple. »
OK. L'avis de motion, elle?
Excusez-moi.
L'avis de motion?
L'avis de motion concerne majoritairement les règlements. Donc, un avis de motion, c'est lorsqu'il y a un changement réglementaire dans le monde municipal, on se doit de présenter un avis de motion.
Un au parquet.
Pour vulgariser, parce que c'est des termes à Saint-Saëns.
Ouais.
L'avis de motion, là, ce que ça veut dire, là, c'est on vient de changer le règlement, voici une copie du règlement qu'on vient de changer, on vous donne 30 jours ou jusqu'à la prochaine séance pour lever votre main à titre de citoyen et vous y opposer ou demander des changements à ce règlement-là. Donc, on donne la chance aux citoyens de le consulter. C'est une période de transition entre l'adoption et l'avis de motion. Bien, l'avis de motion et l'adoption. Et on le rend public à tous. C'est la première étape d'un changement de règlement. Donc, on commence avec un avis de motion. Et le mois suivant, il y aura l'avis d'adoption. Donc, c'est seulement un petit libellé pour dire le changement de règlement y est fait. Levez votre main d'ici la prochaine rencontre, le prochain meeting, parce que sinon, il va être adopté comme ça.
OK. Et on va terminer avec le droit de veto.
Oui, un processus, en fait. Là. Dans les grandes villes, c'est rare. Quoi qu'à la Ville de Québec, c'est quand même régulier. Mais c'est le principe d'un maire ou d'une mairesse qui utilise son droit de veto. Donc, dans un conseil municipal, par exemple, de 7 élus, on a un maire et 6 conseillers. Advenant le cas où il y a un vote qui se prend, par exemple, sur le congédiement d'un employé ou l'octroi d'un contrat douteux, et 6 conseillers lèvent la main et sont tous favorables à ce dit congédiement ou à l'octroi de ce contrat-là, le maire a toujours le droit, lui, à titre de maire ou de mairesse, de lever la main et de s'opposer à la direction que son conseil prend et d'utiliser son droit de veto et d'aller à l'encontre de la décision de son conseil.
Et hey, ça doit être le fun, là?
Ouais, ça se fait régulièrement dans les petites municipalités et c'est souvent pas dans la bonne direction que ça va. Et lorsque c'est un droit de veto, là, je le tranche en deux dossiers. Lorsque 6 conseillers votent pour et le maire vote contre, bien, c'est la parole du maire qui fait foi de tout. Par contre, ce qui est enseigné dans les bonnes pratiques municipales, et je le dis, je le répète, il y a beaucoup d'élus qui ne font pas la différence entre ce qui est légal et ce qui est éthique. Ce n'est pas parce que c'est légal que c'est pour autant éthique. Et dans les formations qu'on donne à tous les débuts de nouveaux mandats, on enseigne et les avocats enseignent aux maires de ne jamais prendre parole dans une décision ou de voter. Parce qu'on laisse le conseil voter. Et à titre de maire, si votre conseil municipal est scindé 3-3, n'allez pas agir à titre d'agent décisionnel. Racisez-vous avec votre conseil, trouvez des terrains d'entente, faites le bon parti entre vos équipes et ne tranchez pas. Dans le cas à la Ville de Québec, considérant qu'ils sont 21 ou 22 élus, là, je me mêle toujours avec le maire, et qu'il y a une majorité avec lui incluant, c'est toujours le cas. Donc, le maire vote systématiquement sur l'ensemble des dossiers, ce qui lui permet de s'assurer d'avoir la majorité. Normalement, si on était devant une personne qui chercherait vraiment le bien-être de sa ville et d'un consensus au sein de son conseil municipal, s'il voit des votes scindés 10-10 entre l'opposition et son équipe, bien, il reporte le point et « Hey gang, on se rassit tout à la table ». Mais là, de fait que M. Marchand vote systématiquement à toutes les sommaires, bien, il s'assure que peu importe si 100% de l'opposition est contre, il va toujours passer.
Voilà. Voilà. En terminant, Renaud, le tripotage de chiffres à Ville de Québec.
Oui, oui.
Ça, tu as sorti ça cette semaine, c'est assez incroyable. Hein?
C'est fou.
Ouais, on en a parlé cette semaine. Je l'ai fait rapidement parce que c'est normal. Là, vous avez des horaires chargés. Vous avez tous vos invités, les invités qui viennent là, dans les shows, surtout le midi avec un gros show chargé. Puis j'en ai parlé. J'ai parlé de l'endettement de la Ville de Québec, qu'on se plaît à dire qu'il a diminué depuis plusieurs années, voire les quatre dernières années sous Marchand. C'est un terme lourd de sens. Puis c'est une façon, personnellement, que j'apprécie pas de jouer avec les chiffres ou de rendre les choses là, un peu plus belles qu'elles le sont réellement. Dans le cas de la Ville de Québec, là, la dette totale là, à long terme n'a pas diminué. Là. Ça, c'est la dette réelle. Puis ces documents-là sont tous disponibles en ligne sur le site du ministère des Affaires municipales du Québec. Donc, lorsque vous inscrivez rapport financier ou profil financier avec les lettres M-A-M-H pour le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, vous allez trouver les dites informations. Elles sont accessibles et elles sont publiques. Par contre, là où que ça devient dangereux, puis c'est là que j'ai un peu plus de difficultés, c'est lorsque des élus ou même des journalistes rapportent le fait que la dette diminue. Je répète, la dette à long terme de la Ville de Québec, elle a augmenté de façon énorme dans les dernières années. Et c'est cette réalité-là qui prévaut, malheureusement, pour certains qui voudraient dire l'inverse. À la dette de la Ville de Québec, la dette, puis c'est le document que j'essayais d'ouvrir pendant que je vous parlais, là. Je vais vous la sortir dans un instant, là. C'est parce que je suis sur mon portable. Bon, ici, là. En 2017, lorsque Régis Labeaume a commencé là, son mandat, ben, son dernier mandat, excusez-moi, la dette et l'endettement total net à long terme était d'1,760 milliards. Donc, 1,7 milliard. Okay? Ça, c'est la dette à long terme, l'endettement à long terme de la Ville de Québec lorsque Régis Labeaume était au pouvoir au début de son dernier mandat. Lorsque Régis Labeaume a quitté la Ville de Québec à son dernier mandat, l'endettement total à long terme était de 2,187 millions. Donc, 2,187 millions. C'est ce qui a laissé la Ville de Québec. Ça l'a augmenté, mais très peu, plus ou moins 60 millions de dollars là, dans ce laps de temps-là. Si je ne fais pas de coquille, là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Là, mais on a passé de 1,7, donc un peu plus que ça quand même. Là. Donc, on a passé à 2,187 à la fin du règne de Régis Labeaume.
400
Régis
millions.
Labeaume, ouais, exact. Et sous Labeaume, sous la colonne en dessous de ça, l'excédent de fonctionnement accumulé, c'était 308 millions. Donc, la Ville avait un endettement total à long terme de 2,187 milliards et un surplus accumulé de 308 millions. Je vais éviter les chiffres de la fin là, pour ne pas mêler les gens ce matin. À la Ville de Québec, selon les rapports financiers l'an passé, on est maintenant un endettement de dette à long terme à 2,400 milliards.
Rien.
Donc, 2,4 milliards, excusez-moi. Donc, elle a augmenté de façon considérable et le bas de laine, l'excédent de fonctionnement accumulé, est rendu à 201 millions. Donc, on a coupé plus de 100 millions de dollars dans l'excédent que le Régis Labeaume avait laissé et l'endettement total à long terme est rendu de 2,4 milliards. Donc, elle a énormément augmenté. Et la façon la plus simpliste pour que les auditeurs comprennent ce matin qu'est-ce que ça veut dire l'endettement puis est-ce qu'il a augmenté réellement, là, c'est que dans le même document du ministère des Affaires municipales, la colonne la plus importante, elle s'appelle endettement total net à long terme par unité d'évaluation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce Carbo Pilou, à matin, là, c'est combien la Ville doit par unité d'évaluation. Donc, par compte de taxe, combien elle doit sur la dette. Donc, c'est facile à imaginer. Là. Par tête de pipe, combien elle doit, mais là, c'est par unité d'évaluation. La Ville de Québec, sous le dernier mandat de Régis Labeaume, lorsqu'il a quitté, l'endettement par unité d'évaluation là, était à 9 389 $. Ça, c'est ce que la Ville devait par unité d'évaluation. La moyenne au Québec, à l'époque, était de 7 525. Donc, on devait 2 000 et des poussières de plus que la moyenne du Québec là, pour l'ensemble des municipalités. Donc, on était à 9 389. Présentement, à la suite des derniers états financiers de la Ville de Québec, l'endettement total net à long terme par unité d'évaluation est rendu à 9 857. C'est pratiquement 500 $ d'augmentation.
Par compte de taxe. Par unité
d'évaluation. Par compte de taxe. Qui va à la dette. Et la moyenne du Québec, elle a augmenté d'à peine quelques dizaines de dollars. Elle est à 7 772. Donc, on doit plus de 2 000 $ en moyenne à la Ville de Québec en dette que ce que la moyenne du Québec a.
C'est assez incroyable, hein? Pourtant,
c'est public, c'est des données publiques.
Mais oui, pourtant, t'entends un maire dire qu'il flotte des nuages, qu'il est capable de payer son tramway cash. Là, finalement, c'est pas ça, là.
Mais payer le tramway cash, on pourrait y revenir dans deux semaines, là, mais en plus d'être peut-être mathématiquement possible, c'est une approche très, très malsaine, voire loin d'être recommandée là, par les affaires municipales, parce que ça se trouve être juste les gens qui ont cotisé à ce bas de laine-là qui vont payer. Et après le paiement cash, ben, les autres n'auront jamais payé leur juste part. Mais ça, on pourra y revenir. Mais la réalité, là, c'est que l'endettement, elle a augmenté par unité d'évaluation. Le taux de taxation, pour revenir à des exemples concrets de ces documents-là du ministère des Affaires municipales, le taux global de taxation uniformisé, donc combien ça vous coûte en taxes uniformisées aux 100$, la Ville de Québec est à 1,752$, donc 1,0752$ par 100$ de taxes. La moyenne au Québec, elle est à 0,8030.
Imagine.
Donc, on est plus de 27 sous par 100$ que la Ville de Québec taxe de plus que la moyenne provinciale.
C'est incroyable, hein? On se termine ça avec...
C'est la publique.
Ah ouais, on tripote les chiffres encore. La police de Québec.
Ouais, la police de Québec, c'est un document que j'ai discuté cette semaine. On entend, qui veut l'entendre, là, en fait, dans les médias, que la Ville de Québec a embauché 50 policiers de plus que l'an passé, qu'il y a 50 policiers de plus, ainsi de suite. C'est encore une fois de jouer avec les mots et de jouer avec les chiffres. Puis j'ai pas le choix de lancer des fleurs à l'équipe de Bruno Marchand. Là. Ce sont des fins communicateurs. Ils comprennent la game politique. Ils connaissent la joute politique. Et leurs opposants sont très, très, très limités à ce niveau-là, je vous le dis. Là. Autant l'équipe de M. Hamad que Respect Citoyen, que Claude Villeneuve et compagnie, là, le niveau communication est très, très, très boiteux. L'équipe Marchand mentionne qu'il y a 50 policiers de plus à la Ville de Québec, ce qui est totalement faux. Moi, cette semaine, j'ai donné les quantités, je vais dire ça comme ça, même si ce sont des humains, en date du 31 août. Mais la réalité, là, en date de ce matin, là, le 28 septembre, là, c'est qu'il y a moins de 20 nouveaux policiers syndiqués à la Ville de Québec quand M. Marchand se plaît à dire qu'il y en a plus de 50. Est-ce qu'il a embauché 50 nouveaux policiers? Il est fort possible, mais il n'y a pas 50 policiers de plus dans l'effectif à la Ville de Québec. Ceci est faux. Lorsqu'on l'entend dire dans les points de presse avec Gary ou avec d'autres de dire « on a doublé l'équipe multi afin d'intervenir dans le quartier Saint-Roch, par exemple », c'est encore une fois faux. Parce que l'équipe multi représente, à ce jour, avant son annonce, plus de 30 policiers. Ça serait dire que l'équipe multi est rendue à plus de 60 policiers. Ce qui est faux aussi, l'équipe multi, sur le terrain, n'a pas doublé. Il n'y a pas 30 policiers de plus à l'équipe multi. Tout comme il n'y a pas 50 policiers de plus dans l'effectif de la Ville de Québec. Parce que c'est une façon semi-faussée, à demi-faussée d'utiliser les chiffres. Est-ce qu'il y a peut-être 50 nouveaux policiers? Oui, mais on ne peut pas, lorsqu'on communique l'information aux citoyens de façon transparente, ne prendre qu'en considération les « in », donc les intrants, et ne pas compter les sortants. Donc, peut-être que vous avez engagé bel et bien 50 nouveaux policiers, mais il y a eu plusieurs dizaines de départs à la retraite. Il y a eu des congédiements. Il y a eu des gens qui ont quitté de leur plein gré le service de police de la Ville de Québec en raison de déficiences au niveau organisationnel. Et aussi parce que les conventions collectives n'ont pas été resignées depuis plusieurs années. Il y a des policiers qui attendent des postes à la SQ. Ils attendent quelques semaines encore pour quitter que le poste de la SQ s'ouvre. Donc, si vous prenez 50 in, donc 50 nouveaux policiers, mais vous ne prenez pas en considération l'ensemble des départs, ce n'est pas vrai de dire que votre effectif a augmenté de 50%. Là.
Ben non. Puis ça, moi, c'est
ça, je comprends pas pourquoi
c'est quoi que je dénonce depuis longtemps. Il n'y a pas plus d'enquêtes qui se règlent. Il n'y a pas plus de dossiers qui aboutissent. Pourquoi? Parce qu'il y en a moins de police.
Même, ça exactement. Puis Carbo, pourquoi? Comment? Tu sais, Carbo puis Louis, comment vous expliquez ça, moi, là? Je veux dire, ce matin, là, des gens clament haut et fort qu'il y a 50 policiers de plus lorsque l'effectif n'a pas augmenté de 50 policiers, que dans ces moins de 20 de policiers qu'on... On a en date de septembre, plusieurs sont des fonctionnaires, je vais dire ça comme ça, là, qui sont des cadres, là, qui ne font pas de terrain. Ils ne font pas de terrain, donc ils n'aident en rien l'analyse sur le terrain. Oui, ils font des dossiers, je conviens, là, mais ils ne sont pas sur le terrain. Pourquoi vous, moi, on en parle, vos collègues, on en parle, mais on n'en entend pas parler ailleurs, pour vrai, Carbo?
Bien, c'est simple à expliquer.
Ou Louis, vas-y.
C'est parce que tous les médias sont ultra complaisants avec l'administration de la ville puis vont faire en sorte que Bruno puis sa gang paraissent super bien, sans faire de recherche, juste avec des beaux chiffres taponnés, comme on nous sert depuis le début de cette administration-là. À toutes les fois qu'on parle de chiffres, moi, il y a une lumière qui allume, je le sais que c'est pas les bons chiffres qu'on se fait donner. C'est tout le temps tripoté qu'on parle d'approbation de tramway, qu'on parle de policiers, qu'on parle de peu importe, de montant pour n'importe quel projet à Ville de Québec, les chiffres sont toujours tripotés. C'est une manière que Bruno Marchand a de faire les faits, a de faire les choses. Je sais pas, il sort ça de où. Je sais pas si ça vient de Centraide, je sais pas de où il y a cette manie-là, mais il s'arrange toujours pour que les chiffres soient tripotés à son avantage.
Mais pourquoi? Mais c'est, un, c'est super bien dit. C'est un peu, je pense que c'est le cœur de ce que je pense moi aussi, ou plusieurs citoyens, citoyennes, même opposition, croient à l'égard de l'administration Marchand. Et moi, ce que j'ai un malaise, puis tu sais, je comprends des fois que ça devient un peu jouer sur deux tableaux, là, mais c'est le fait qu'il n'y a pas 50 policiers de plus à la Ville de Québec, c'est pas vrai.
Mais non.
Il
n'y
a pas 50 policiers de plus dans l'effectif. Moi, là, peut-être qu'il en a engagé 50, mais il n'y en a pas 50 de plus parce qu'il y a eu aussi beaucoup de départs pour des raisons qui reviennent à la Ville de Québec. Puis on a dit on en ajoute 50, mais on en perd 45. Bien, vous n'êtes pas à plus 50, comprenez-vous? Mais pourquoi les gens de l'opposition ou pourquoi même le corps policier ne sort pas publiquement pour dire, regardez, là on dit qu'il y a 50 policiers de plus dans notre corps policier, c'est pas vrai, ça nous peinture dans le coin.
Pas pourquoi.
Parce que là, on est prêt à faire notre travail, puis on prétend qu'on est plus, puis on fait moins de tâches. J'ai su, parce que j'ai des bons amis, là, des amis d'enfance que je joue au soccer depuis que je suis tout jeune, qui travaillent, excusez-moi, au service de police de la Ville de Québec. Là. Puis je veux dire, ils ont eu des AGA dans la dernière journée. Là. Dans les deux dernières journées, là, il y a eu les AGA du service de police de la Ville de Québec. Là. Et cette question-là, mes propos sont revenus à cette AGA-là. Des policiers, des policières ont posé la question de « Hey, gang, Renault a sorti les vrais chiffres, du moins la vraie réalité. » Puis là, le maire mentionne qu'on est 50 de plus quand c'est pas vrai. Y a-tu moyen de faire quelque chose puis de sortir publiquement? Mais considérant qu'on est présentement dans une campagne municipale, vous comprenez que le service de police de la Ville de Québec ne peut pas sortir. Parce que là, ça serait de peinturer leur maire dans le coin et de prendre un parti pris.
Il mériterait.
Et c'est ça que je déplore. Il faudrait quand même sortir les vrais chiffres.
Il mériterait, Renaud. Toujours pertinent. Merci beaucoup de prendre le temps un matin
merci
comme ça
vous,
de venir
bon,
nous voir. On va se laisser sur un petit montage qu'on a fait cette semaine qui vient comme un peu sceller ce que tu viens de nous dire. Merci, Renaud.
Yes, bon dimanche.
Salut.
Bye. Salut. Bye.
132 in Bush. I've got him at gunpoint. Okay, gunpoint. 132 in Bush. Covers code 3.
Thanks,
Ted. Phoenix 2514 can transmit on tech 2.
On a mis 50 policiers de plus cette année, puis on va en mettre 50 l'an prochain.
L'année dernière, au 31 août 2024, la Ville de Québec avait 967 policiers et officiers non syndiqués. Au 31 août 2025, il y a à peine deux semaines, elle a 974 policiers. Fait qu'il y a 7 policiers de plus.
Mais ce que je vous dis, c'est qu'on a plus de policiers.
Et de ces 7 policiers-là, il y en a 4 qui sont des postes de direction et 3 qui sont sur le terrain.
On a investi énormément plus.
Mais il y a eu plus de 40 départs à la retraite.
Ben oui.
Il n'y a eu aucune augmentation.
Juste sur l'équipe multi, c'est 500 000 $ de plus.
Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Hey, on vient de sauver Saint-Roch.
Ladies and gentlemen, le show du matin.
Quiet, please.
Weekend.
Radio X.